ToraBox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un enseignement de Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud.
Précédemment, on a vu avec les groupes de femmes le sujet de la discipline. Vous pouvez le rattraper parce qu'il est enregistré. Celle qui n'a pas eu, c'est très... Ça vaut la peine de rattraper parce que ça formera une image d'ensemble. Et aujourd'hui, on se réunit pour traiter du sujet qui est l'interaction émotionnelle avec l'enfant. Donc on a étudié en premier lieu le côté de la Gvoura plus, qui est la discipline, les règles, les limites. Et là, ce soir, on va parler du côté plus, côté chesed. En fait, tout le chinour, c'est du chesed en réalité, mais on va se pencher plus sur le côté des relations affectives, le contact émotionnel qu'on a avec l'enfant. Donc, il y a un mois et demi de ça à peu près, on avait parlé de quelques notions que je ne vais pas reprendre ce soir, mais je vais essayer de faire une petite rétrospective pour celles qui n'étaient pas là, et puis après continuer sur la lancée, Bezrat Hashem. Donc, on avait dit, Le'olam yehi adam, yirei shamayim baseter ubagalui, ce passage qu'on trouve dans la Tfila nous renseigne sur la méthodologie de notre travail éducatif. Le Rav Yaakovson raconte que quand il était bar mitzvah, il a reçu un cadeau un peu particulier du Rav Hatzkel Abramski. C'était l'explication de ce pasouk, Le'olam yehi adam yirei shamayim baseter ubagalui. Il lui a dit, si tu veux comprendre ce pasouk, il faut que tu donnes une ponctuation. Il faut que tu dises Le'olam yehi adam virgule, yirei shamayim baseter virgule, ubagalui point. Ce qui voulait dire, dans ta démarche éducative, comprends que ça va suivre ce même chemin, cette même feuille de route. Le'olam yehi adam, d'abord il faut que l'homme soit un homme. Il faut faire un homme d'abord. Faire un homme, ça veut dire se soucier de donner les outils à l'enfant, de devenir quelqu'un d'équilibré, d'épanoui, avant toute autre chose. Kal vachomer dans un chinour de Torah. Il n'est pas possible de faire l'impasse de ceci. Donc, le Rav Abramski lui a dit, comprends d'abord la première chose, Le'olam yehi adam. Fais d'abord un Adam, un Ben Adam, quelqu'un d'équilibré. Ensuite, yirei shamayim baseter. Ensuite, on pourra lui rajouter le keter, la couronne de yirei shamayim, de Eved Hashem, qui forcément se placera sur quelqu'un qui est déjà un homme construit. Ou bagaloui, et ensuite cette construction intérieure de la pnimiyut, comme on appelle dans notre langue à nous, de toute l'intériorité, ensuite elle sortira au dehors. C'est-à-dire qu'on verra, c'est un gadol, voilà. Mais ça suit ce chemin. Et le Rav nous dit souvent, dans notre génération où on veut du prêt à, du rapide, du instant, on prend la phrase complètement à l'envers. On veut yirei shamayim bagaloui, qui soit d'abord yirei shamayim bagaloui, qui soit chashuv, qui soit quelqu'un d'important, de mefursam, de connu, tout le roshem chitsoni, ce qu'on appelle toute l'impression extérieure qu'on donne. Bah c'est ok, ça c'est déjà pas si important que ça. Et puis Adam, Bichlal, bon, on verra ça une autre fois, c'est réussi pour les psychologues ça. Mais au travail. C'est très dommage parce que c'est pas du tout, ni les psychologues ni rien du tout, et ils n'ont rien inventé du tout. Ils sont venus bien, bien après mettre en évidence des choses qui sont pour nous des connaissances ancestrales. Et donc pour nous, c'est notre méthodologie de travail. Le Rav Yaakovson, il rappelle à de maintes reprises dans beaucoup de ses cours, dans différents thèmes, l'importance de suivre cet ordre dans la construction. Donc avant de parler, Baruch Hashem, moi j'ai des feuilles comme ça sur tous les cours du Rav Yaakovson avec toutes sortes de thèmes, des thèmes très basiques qui conviennent à toute l'humanité, comme la discipline, comme l'exemple personnel, l'encouragement et toutes ces choses. Et j'ai aussi d'autres cours qui sont Chinuch, Yirat Shamayim, éducation à Yirat Shamayim, éducation au libre arbitre, éducation à la satisfaction spirituelle dans la Avodat Hashem. Toutes ces choses-là qu'on ne traite pas au début. Qu'on traite une fois qu'on a d'abord donné au moins la ishtadlout, de donner les outils aux parents de construire des enfants équilibrés. La construction, ce n'est pas nous qui la faisons, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé une chose, de faire ishtadlout. S'il nous a demandé de faire ishtadlout, on ne peut pas se défiler de notre obligation. Mais notre optique, ça sera toujours Je ne viens pas apprendre du chinour pour devenir un expert, que maintenant je suis en contrôle et je contrôle tout. Non, je viens m'asseoir faire ishtadlout, d'entendre des choses que peut-être je ne sais pas, de me donner des hadrachot que peut-être je n'ai pas, pour faire au moins le jeu que Hakadosh Baruch Hu me demande de faire la ishtadlout, de jouer le jeu, mais pas se prendre au jeu. Se prendre au jeu, c'est quand quelqu'un il pense qu'une fois qu'il a acquis toutes sortes de connaissances de chinour, et alors c'est bon, tout est dans la poche. Le résultat ne nous appartiendra jamais. La réussite, ce n'est pas nous qui la faisons, c'est Hakadosh Baruch Hu. Mais nous devenons des clés qui boulent, nous devenons des réceptacles de réussite du moment qu'on fait la ishtadlout de façon réouya, de la bonne manière. Et alors Hakadosh Baruch Hu, après, il peut déverser ce qui s'appelle la hatzlacha. Donc ça sera notre, on va dire, notre optique, notre perception des choses. Elle va tout le temps se calquer à cette façon de voir. Donc pour commencer à construire ce qu'on appelle le karka, la base, les fondations, Laura avait dit que le karka, c'est l'affection. C'est tout ce qui s'appelle la qualité relationnelle, si je veux élargir, d'accord? Parce que des gens vont me dire, ah, moi je suis affectueuse, c'est bon, je n'ai pas besoin d'écouter. Et je vais leur dire, moi aussi je suis très affectueuse, et pourtant j'ai beaucoup appris avec tout ça. Il s'agit, si on élargit le prisme, de la qualité relationnelle. Donc tout l'échange relationnel avec les enfants. Ça comprend énormément de choses, ce n'est pas juste l'affection. Et il nous disait, le Rav, que si on voulait schématiser la démarche éducative, on pourrait faire l'image d'une maison. Et une maison, alors le karka, les fondations, le sol, c'est l'affection. Les murs, la toiture, enfin toute la misguerre et tout le mivné, toute la construction, c'est la discipline, les limites. Et tout l'intérieur de cette maison, c'est l'encouragement. Donc si vous avez le tamtit, vous avez le condensé imagé pour pouvoir attraper un peu toutes les notions. C'est ce que j'avais dit déjà dans le cours sur la discipline. Maintenant, je le redis, mais je vais mettre le ciblage sur le karka, les fondations, qui est donc l'affection, l'amour. On avait vu précédemment que « Alkol peshaim techase ahava » il nous dit le Navi, c'est-à-dire l'amour couvre toutes les fautes. C'est-à-dire qu'un parent, c'est une créature, un produit évolutif, vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de se former, de s'améliorer, d'avancer. Donc forcément qu'il va faire des erreurs en cours de route. Notre ennemi juré n'est pas l'erreur. L'erreur, elle va nous aider à nous construire. Notre ennemi, c'est le découragement. Faire très attention toujours au découragement. Ça, c'est vraiment via vota tuma. C'est mamash ce qu'il faut à tout prix se battre contre lui. Mais les erreurs, on ne peut pas se battre contre elles. On va faire des erreurs parce que chez Vaipol Tzadik Vakam, les khatrila, c'est-à-dire que le tzadik il devient ce qu'il est parce que cette fois il trébuche et il se relève, le rachat il tombe une fois, il ne se lève pas. Donc l'encouragement, ce sera toujours notre moteur de travail, évidemment. Et donc, il nous dit, le Navi, « Alkol peshaim techase ahava », c'est-à-dire que l'amour, elle a cette faculté de couvrir nos erreurs vis-à-vis des enfants, de couvrir nos incohérences. On n'est pas encore complètement devenu un malach alé adamot, on n'est pas encore un ange, donc on a aussi quelques incohérences, quelques limitations. Et toute l'affection qu'on déverse sur l'enfant va agir comme une sorte de pommade qui couvre, et c'est le Navi qui nous dit comme ça, mais le Rav l'a repris pour un enseignement éducatif, qui va couvrir vraiment même nos erreurs et même nos limitations et même nos incohérences. Par contre, vous faites le raisonnement à l'envers, quand l'enfant il se sent pas aimé, alors là toutes nos erreurs et toutes nos incohérences lui apparaissent au grand jour de façon hurlante, et c'est surtout ça qu'on veut éviter. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui est nouveau ici? On sait qu'il faut, les enfants, ils ont besoin d'amour. Tout parent aime ses enfants, ça c'est dans les livres, d'accord? Alors pourquoi beaucoup d'enfants, quand ils sont audités, à l'âge de l'adolescence ou même avant, on creuse un petit peu, ils disent qu'ils ne se sentent pas aimés? Parce que souvent on fait l'erreur entre eux. Nous on les aime, mais eux, est-ce qu'ils se sentent aimés? Voilà la question. Souvent on pense que l'amour a des facultés télépathiques. Si nous on les aime, forcément qu'ils vont sentir qu'on les aime. Alors il dit, c'est pas exactement comme ça, parce que l'enfant, il a un mode de perception qui est celui de l'enfant, et l'adulte, il a un mode de perception différent. Donc, pour que ça passe à l'enfant, il faut que cet amour soit démontré. Si des gens, ils ont un caractère réservé, ou pas très expansif, mais qui pensent que, à Kolbe Seder, tout va bien avec ça, puisque de toute façon, moi je sais très bien que j'ai de l'amour dans le cœur, c'est quelque chose qui se diffuse de façon infuse, et il n'y a pas besoin de démonstration d'affection tellement fréquente. Ils se trompent, Il se leurre parce que l'enfant, lui, ne capte que ce qui s'appelle le mouhashi, c'est-à-dire ce qui est palpable, ce qui est chavayati, ce qui se vit, ce qui se sent, pas ce qu'on dit. Ça, c'est un des parasitages, on va dire. Là, on va essayer de poser les différentes choses qui parasitent la réception du message. Je vais appeler ça que c'est un message. Le parent, il aime son enfant, il veut lui envoyer ce message, je t'aime. Est-ce que l'enfant, il reçoit ce message? Aujourd'hui, dans certains cas, l'enfant ne le reçoit pas. Pourtant, il y a un émetteur du message, mais l'adresse apparemment n'est pas la bonne. Qu'est-ce qui parasite? On va essayer de les structurer. Premier parasitage, certains parents ont du mal à démontrer l'affection et ils pensent que c'est simplement un caractère et qu'il n'y a rien à faire avec ça et que l'enfant, de toute façon, il va forcément le ressentir. Première erreur. Il dit l'enfant ne va pas le ressentir et il ne se sentira pas aimé. Autre type d'erreur qui parasite, c'est que certains parents pensent que si l'homme, mais il sait bien qu'on l'aime, vous savez, c'est l'argument qui revient souvent, mais il sait bien qu'on l'aime. Alors, petite correction, l'enfant ne sait rien, il ressent. Il ne doit pas savoir qu'on l'aime, ça ne va pas l'aider du tout. Il doit sentir qu'on l'aime. Et pour arriver à ça, il y a tout un petit, comment on va dire ça, un petit réglage de fréquence entre nous et eux. Deuxième type de parasitage, c'est que les conditions de vie dans lesquelles nous vivons favorisent beaucoup, eh bien justement, le parasitage du message. Pourquoi? On vit une vie un petit peu pressée, un petit peu stressée, on vit à 100 à l'heure, hein, vous... Moi, pas du tout. Je peux vous dire, je suis tranquille du matin au soir. On est, voilà, c'est les autres, hein, on ne parle jamais de nous. Je vais vous le rappeler plusieurs fois dans le cours que je parle des autres, bien sûr, je ne parle pas de nous. Donc certains peuplades, ils vivent très pressés et très stressés. Ils n'ont pas beaucoup de disponibilité. Le niveau d'écoute dans la maison, il est faible. On connaît des fois mieux des gens de l'extérieur que des gens qui sont chez nous, notamment les enfants. Et puis, l'enfant, je le dis très rapidement parce qu'on l'a vu précédemment, l'enfant, il a une perception égocentrique de la vie. C'est-à-dire que jusqu'à 7-8 ans comme ça, perception égocentrique, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, il ressent que ça a un rapport avec lui. Donc le bébé qui entend une perceuse, il a une mini-attaque, c'est vérifié physiologiquement, une mini-attaque, Khalila, parce qu'il est persuadé que le bruit de la perceuse a un rapport avec lui. Nous, on pense parce qu'il y a du bruit, alors il sursaute. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. Le bébé, il a la sensation, sans savoir rien, il a la sensation que ça a un rapport avec lui. Donc, il sursaute. D'accord? Ça, c'est pour le bébé. Maintenant, pour l'enfant, jusqu'à 7-8 ans, quand papa ou maman sont pas contents, aucun rapport avec l'enfant maintenant. Ils rentrent, ils sont fâchés parce qu'ils ont des problèmes bureaucratiques, ils ont toutes sortes de soucis, ils rentrent avec une tête comme ça. L'enfant est persuadé que c'est à cause de lui. Et même si vous lui expliquez rationnellement, mais non chérie, tout va bien, non, c'est pas toi, c'est pas du tout toi, il reste avec ce qu'on appelle en suédois la romma. Vous connaissez ce truc-là? Pour ceux qui sont sympathisants de la Suède. Donc il reste comme ça, et on peut lui expliquer rationnellement, c'est pas rationnel, c'est un sentiment, c'est un ressenti, c'est pas de l'intellectuel ici. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Nous, on va pas comprendre de ça, de commencer à paniquer, de dire oulala. D'ailleurs, peut-être que certaines, si vous avez fait attention à ça, quand vous êtes soucieuse, pas vous, hein, excusez-moi, c'est les autres, oui, certaines dames, quand elles sont soucieuses, ou elles sont ennuyées, ou contrariées de quelque chose, ça arrive parfois à des gens, alors que vous avez remarqué ça, que l'enfant qui est surtout le plus sensible de la maison, parce qu'il y a toujours un comme ça, le plus... sensible. Alors il va venir, il va dire « Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose ?» Il est sûr que c'est lui. C'est pile et plein, c'est incroyable cette chose-là. Donc ça c'est quoi? C'est la tfissa égocentrique. C'est la perception égocentrique de l'enfant. Et quel rapport avec notre propos? Le rapport avec notre propos, c'est que donc, toute l'agressivité ambiante qu'il y a dans la rue, toute la avira, l'atmosphère de compétition, de machin. Et puis, le fait que nous aussi, les autres, ils ont des humeurs, il y a toutes sortes de choses sympathiques, ouais. Fait que l'enfant, lui, il boit ça, il est un buvard. Et il est sûr que c'est à cause de lui. Donc, ça parasite également la transmission. Vous avez compris? Maintenant, il y a un autre élément qui parasite la transmission, et cet élément, il est peut-être le plus courant, le plus vraiment répandu dans le public, qui est le nôtre. C'est que, à force d'être influencé par le vent de société dans lequel on vit, il arrive souvent que la relation d'amour vis-à-vis de l'enfant, elle devienne conditionnelle. Conditionnel parce que toute la société, elle fonctionne sur du conditionnel. C'est contractuel. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes la prestation, je te paye. C'est normal. Dans le monde commercial, c'est normal. On ne va pas faire les philanthropes de... Le monsieur, on lui a commandé une table à l'ébéniste. Il ne la donne pas, on ne va pas le payer. C'est tout à fait normal. Il dit, mais ce type de schéma relationnel, il est arrivé jusqu'à chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de deux choses l'une. Soit c'est de façon explicite, soit c'est de façon implicite. Explicite, c'est quoi? C'est que le parent... Il va être capable de démontrer de l'affection seulement quand l'enfant se comporte bien. Ou lui dire « je t'aime parce que tu es belle » ou « je t'aime parce que tu as bien réussi au Mifran » ou « je t'aime ». Kailou, relier le « je t'aime » ou l'affection avec un bon comportement de l'enfant. Ce qui évidemment est une aberration en réalité. Mais ça veut dire que ça peut arriver très facilement. Ou alors l'inverse, Khalila, que l'enfant il se comporte mal, il fait une grande bêtise ou il fait des bêtises et que le parent... Je pense que ça ne nous concerne pas, mais voilà, il y a des cas comme ça, que le parent va lui dire « je t'aime plus » ou « t'es plus mon fils » ou « je suis plus ta mère » ou « est-ce que je sais moi ?» Toutes sortes de choses aberrantes. Et n'ayez pas peur si c'est arrivé cette chose-là, parce que c'est une chose qui s'est contaminée de comme dans l'air, vous voyez, dans les particules ambiantes. Et ça, qu'est-ce que ça véhicule quand c'est explicite, bichlal, quand c'est comme ça explicite, ça véhicule à l'enfant que ce n'est pas lui qu'on aime, c'est son comportement. Ça véhicule à une petite fille, par exemple, si elle est brillante, elle est bonne à l'école, qu'on l'aime que si elle est brillante. Ou avi motara ki mi mutslachat, comme il dit le rav en hébreu. Mais on ne l'aime pas, elle. Alors, ici, ça nous pose un petit problème. D'abord, pardonnez-moi, avant de continuer, je veux préciser. De façon implicite, c'est le plus courant, parce que explicite, c'est relativement rare, mais ça arrive. Mais implicite, c'est le plus courant. Implicite, c'est quoi? C'est qu'on ne va pas dire ça. On ne va pas dire « je t'aime parce que tu as bien fait ta bracha, je t'aime parce que tu étudies bien la Gemara ». On ne va pas le dire, parce qu'on est un peu pédagogue quand même, n'est-ce pas? Mais finalement, c'est le message qui transparaît dans la relation. Puisque, dans certains cas bien sûr, hein, puisque finalement les manifestations d'affection coïncident systématiquement avec les bons comportements de l'enfant. Ou alors à l'état inverse, lorsque l'enfant se comporte mal, au lieu de gérer ça comme « l'enfant il se comporte mal, je ne prends pas à cœur ». Lorsque le parent il prend tellement à cœur qu'il y a un écourt, il y a une coupure, mamache, qu'il y a même une envie de vengeance dans un cas comme ça, l'enfant il perçoit également que la relation est conditionnelle. C'est-à-dire que l'amour en fait qu'on lui porte n'est pas sans condition. C'est à condition que tu te comportes bien. C'est à condition que tu files droit. Je vais élargir. C'est à condition que tu deviennes la personne que je veux designer moi. C'est à condition que tu fasses la carrière que j'ai choisie. Comprenez de quoi je vous parle? On est peut-être la deuxième ou troisième génération de ce type de traitement. D'accord? C'est peut-être pas nouveau, cette chose-là. Mais ça donne que finalement, une fois adulte, si une personne elle n'a pas été inondée d'affection et que justement, les seules miettes qu'elle a reçues, c'est dans ce type d'échange, d'accord? Quand elle se comporte bien, quand elle donne satisfaction. Alors cette même personne, elle va emporter avec elle ce schéma relationnel, même adulte. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une personne qui se sent tout le temps l'obligation d'être toujours serviable, même quand elle ne peut pas. qui va se démener pour toujours faire plaisir à tout le monde, pour toujours satisfaire tout le monde, pour toujours... Ça vient d'où ça? Ça vient de ça. Ça vient de cette faiblesse au niveau de la construction. C'est pas grave, tellement de gens ils sont comme ça aujourd'hui. Simplement, hein, nous on met le doigt sur ça pour voir qu'il y a des déclinaisons même au niveau de l'âge adulte, qu'on retrouve ce type. Parce que qu'est-ce qu'elle a enregistré cette personne-là? Elle a enregistré que pour qu'on m'aime, il faut que je sois toujours au top. Pour qu'on m'aime, il faut que je sois toujours serviable. Pour mériter qu'on m'aime, il faut que je sois toujours... j'ai pas le droit d'être malade, j'ai pas le droit d'être fatiguée, j'ai pas le droit d'être pas en forme, j'ai pas le droit. Cette personne ne va pas le dire, mais c'est ce qu'elle vit. Donc elle va tout le temps se démener pour donner satisfaction à tout. Et puis je vais vous dire tout de suite, on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est impossible. Il vaut mieux le savoir déjà à l'entrée, plutôt que de perdre le temps et l'énergie. Impossible de satisfaire tout le monde. Il y en a un qui a essayé, il a raté, c'est Achash Verosh, vous savez. Il a fait le festin, il a essayé de satisfaire tout le monde, c'est connu cette chose-là. Il a essayé de faire tout pour faire plaisir à tout le monde. Celui-là le vin comme ça, celui-là le truc comme ça. À la fin, personne n'a été très content, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, ça n'existe pas. Il faut essayer de faire ce qui est juste, c'est tout. Et parfois, faire ce qui est juste, ça demande de dire non. Parfois, faire ce qui est juste, ça demande de dire « je ne peux pas maintenant faire cette chose-là ou cette chose-là ». Alors bien sûr, beaucoup de fois, on va oui le faire, et on va oui aider. Mais quand on ne peut pas, ou quand ça vient sur le compte des gens de la maison, la question ne se pose plus ici. C'est tout un autre volet que nous ne traiterons pas ce soir. Besséder. Donc, l'amour conditionnel, c'est finalement le type de relation qui est aujourd'hui, je ne veux pas dire le plus courant, mais qui est très courant, et qui fait qu'en définitive, l'enfant ne reçoit pas d'amour. Vous allez me dire, pourquoi ? Il a quand même de l'amour conditionnel, même si c'est un peu médiocre, mais c'est quand même, il reçoit de l'amour, vous n'allez pas me dire qu'il n'en reçoit pas. Et maintenant, j'amène ici notre référentiel éternel qui est la Torah. La Torah, elle définit l'amour. Elle dit Mazé Ahava. Elle te dit Ahavat Luya Badavar Eina Ahava. L'amour qui est conditionné à quelque chose n'est pas de l'amour. On aurait pu imaginer que la Torah, elle va être un peu plus édulcorée. Elle va nous dire ça, Keilu, c'est une qualité médiocre d'amour, ou c'est une qualité discutable. Mais là, elle ne te dit pas c'est un amour moyen. Elle te dit Zelo Ahava. C'est pas de l'amour. C'est autre chose, c'est un échange contractuel, c'est autre chose. Donc si elle invalide, elle disqualifie, alors on comprend ici que l'enfant, ce type de relation conditionnelle, ne le nourrit pas, et qu'en définitive, il ne reçoit pas d'amour. Ça explique maintenant pourquoi. Il y a une telle... une telle différence de diffusion et de perception chez l'enfant, quand par exemple des enfants adolescents, ils sont audités, parce qu'il y a des petits problèmes, des petits soucis, ils sont audités et qu'on découvre, l'enfant ne se sent pas aimé, le parent ne comprend pas. Il y a un décalage complet, il y a un décalage complet entre notre diffusion et sa réception. Et on ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, voilà, Ishtabar chez Molaad. Rav Yaakovson, il met la lumière sur ça. Il te dit, il y a des parasitages. Parasitage, c'est le mode de vie de fou. Parce que même si on est gentil et affectueux, on est parfois très stressé. L'enfant, il prend ça pour lui, ça parasite. L'autre parasitage, c'est qu'il y a des parents qui aiment beaucoup leurs enfants, mais ils ne le démontrent pas. Et ils ne comprennent pas que on ne peut pas faire sans. Si maintenant il y a un blocage, il y a une difficulté, il y a des façons de traiter. On va voir ça, Bezrat Hashem. Mais ça veut dire ne pas le poser en condition que c'est comme ça et c'est tout. Non. Et le troisième parasitage, on a dit que le type de relation est devenu contractuel, est devenu conditionnel, et que la Torah, elle t'invalide tout de suite ça. Elle te dit Ahava, Kluya, Badava, Eina, Ahava. C'est pas de l'amour. Donc il ne reçoit pas de l'amour.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, d'autres enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt!